Consommer local vous intéresse ? Ce podcast de Sud-Ouest est accompagné par le mouvement hashtag Bordeaux local, une campagne qui met en avant les acteurs économiques girondins, les établissements, les hommes et femmes qui jouent la carte des produits locaux et des vins de Bordeaux. Aujourd'hui, plus que jamais, l'ensemble des acteurs locaux doivent se soutenir et participer à une économie plus solidaire, responsable et engagée. C'est pourquoi l'interprofession des vins de Bordeaux, l'UMI Gironde et l'Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole ont conçu ce mouvement, avec l'adhésion de nombreuses personnalités. Si vous aussi vous êtes hashtag Bordeaux local, rejoignez-nous en découvrant les établissements qui mettent en avant les produits locaux, en vous inscrivant sur bordeauxlocal.fr et en partageant le hashtag Bordeaux local.
Bonjour, je suis Mathieu Hervé. Vous écoutez Les 4 saisons du vin, saison 6. Les 4 saisons du vin est un podcast de la rédaction de Sud-Ouest. Merci d'être là. Bonne écoute.
Passez-moi la carte des vins, s'il vous plaît. La carte des vins de 2050, la carte des vins de 2070. Changement climatique, stress hydrique, nouveaux cépages, amélioration de gestion du sol, nouveaux territoires viticoles. La France du vin est en pleine mutation, en plein bouleversement, en pleine révolution. Et il se trouve que nous avons aujourd'hui devant nous, à ce micro, Nathalie Holla, une des meilleures spécialistes françaises sur ces questions. Elle est l'auteur, avec Jean-Marc Touzard, d'un ouvrage qui fait déjà référence, « Vignes, vins et changements climatiques » aux éditions Quai. Bonjour à tous et à toutes. Vous écoutez un épisode de la saison 6 des 4 saisons du vin. Les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Je suis avec César Compadre, responsable de la rubrique vin à Sud-Ouest. Bonjour César.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et nous accueillons Nathalie Holla. Bonjour Nathalie Holla.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors je vous présente brièvement, vous êtes agronome de formation, vous êtes spécialiste de la physiologie de la vigne, vous êtes directrice de l'UMR Éco-physiologie de la vigne à Bordeaux. Vos recherches portent notamment sur les porte-greffes et le système racinaire. Et je le disais, vous êtes l'auteur de « Vignes, vins et changements climatiques » avec Jean-Marc Touzard, un ouvrage qui fait déjà, je le disais, référence, puisqu'il est pratiquement à la réimpression, ou déjà à la réimpression, 284 pages, 40 euros manifestement bien investis. Alors avant de commencer cette conversation, Nathalie Holla, si vous deviez expliquer la situation du vignoble de France en 2024 et sur ce qui se profile sur les 20-30 années qui viennent, comme dit César, est-ce que vous pourriez nous faire la thèse en 180 secondes ? Allez-y.
Alors, déjà, c'est peut-être un peu compliqué 2024 parce que la saison commence. Mais il y a certainement des éléments à retenir. Alors, c'est un hiver relativement chaud que nous avons eu avec peu de jours froids et ces premiers mois déjà chauds entraîne une précocité importante de la vigne, c'est-à-dire qu'elle a commencé à entrer en végétation, à débourrer relativement tôt dans la plupart des régions françaises. Pour certaines régions qui sont situées dans le sud, le sud-est, Languedoc-Roussillon, il y a déjà le problème de l'eau qui se pose, puisque ça fait, on entre dans le troisième cycle avec très peu de précipitations et cette inquiétude vient se rajouter. Donc, dans les prochains mois, on va voir le débourrement précoce entraîne un potentiel risque de gel de printemps. Et donc, les prochaines semaines, les viticulteurs vont guetter le thermomètre et les prévisions météorologiques pour savoir si il va y avoir un problème avec ce gel de printemps.
Avant de rentrer dans la conversation, qui vous êtes, qui nous parle, Nathalie Holla ? Vous avez consacré toute votre carrière de scientifique à la vigne. Pourquoi ?
Alors, je suis d'origine agricole, du milieu agricole. Mes parents étaient agriculteurs, mais pas viticulteurs. Je viens de la Drôme, hein, donc je ne suis pas originaire de la région bordelaise. Et pourtant, j'ai souhaité consacrer ma vie de recherche à cette plante. Il y a un côté peut-être d'une plante qui est différente, hein, qui exprime le terroir, l'histoire. Il y a la culture qui est associée à la vigne et au vin. Et donc, ça c'est un objet de recherche attractif, on va dire. Donc, j'ai fait des études d'agronomie à Montpellier. Et puis, il y a eu une ouverture de poste d'ingénieur à l'INRA de Bordeaux. Et j'ai commencé à travailler d'abord sur la conduite de la vigne et puis progressivement sur le matériel végétal. Et j'ai trouvé à la fois, j'ai trouvé à la fois sur cette plante... avec la filière et puis via le système de recherche, une manière de travailler qui m'a intéressée et qui a fait que j'ai poursuivi mon travail maintenant depuis plus de 30 ans sur cette plante-là. Voilà.
Alors, on va dire un mot
C'est une déclaration d'amour pour la viticulture, ça.
Absolument. On va dire un mot de votre co-auteur, Jean-Marc Touzard, qui est agronome et économiste. Vos recherches sont basées sur un projet qui s'appelle La Cave. Et votre livre est très largement appuyé sur les recherches qui ont été réalisées dans ce cadre, pour qu'on comprenne bien votre méthodologie et les chiffres sur lesquels vous vous appuyez. Qu'est-ce que c'est le projet La Cave ?
Alors, le projet La Cave, c'est le résultat de 12 années de travail, hein, collectif, grâce à une opportunité qui nous a été offerte par INRA, INRAE maintenant, de mener des recherches pluridisciplinaires sur une thématique que nous avons choisie, qui était les impacts et l'adaptation au changement climatique de la filière vigne et vin. Peu après au début des années 2010, INRAE a offert des possibilités de monter ce type de projet pour étudier vraiment de manière un peu plus complexe, hein, sous ces différents aspects, ces questions d'impact et d'adaptation au changement climatique, toute culture. Et puis, puisque nous travaillons sur la vigne et le vin dans différents laboratoires français, nous avons réfléchi et nous sommes dit c'est un bon objet d'étude. La filière est déjà préoccupée. Dès les années 2000, notamment après la canicule de 2003, il y avait eu une mobilisation, des questionnements, comment la filière pouvait s'adapter, mais aussi comment elle pouvait réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Il y avait déjà des initiatives dans différents laboratoires. Et notre objectif, finalement, via ce projet La Cave, ça a été déjà de fédérer les initiatives de recherche, hein, qui allaient de la climatologie à le fonctionnement de la plante, à la génétique, l'œnologie, mais aussi l'économie, la sociologie, pour mettre tous ces chercheurs ensemble et essayer qu'ils réfléchissent et produisent des connaissances pour la filière vitivinicole française. Ça a très bien fonctionné, hein. On a réussi à créer cette vision commune de l'adaptation, malgré les difficultés de travailler sur ces différentes disciplines. Et aussi, il y a toujours des difficultés à pouvoir faire quelque chose de national, hein. Les enjeux ne sont pas les mêmes en Languedoc-Roussillon, en Alsace, dans le Val-de-Loire et à Bordeaux. Donc il fallait aussi tenir compte de ces aspects-là. Et tous ensemble, nous avons réussi en deux phases à construire des recherches, à les conduire également en collaboration étroite avec d'autres acteurs, hein, qui sont l'Institut technique, l'IFV, mais aussi France Agrimaire, l'INAO, pour vraiment que nos recherches elles soient ancrées dans les besoins de la filière et qu'elles puissent répondre à leurs leurs inquiétudes.
Alors, inquiétudes et besoins de la filière, je le vois ici, attentif et concentré. César, je me tourne vers toi parce que nous voici dans des sujets qui t'intéressent, te passionnent.
Qui m'intéressent et qui me passionnent parce que chaque fois que je vais sur le terrain, dans les propriétés, il est très rare qu'on ne me parle pas des conséquences du réchauffement climatique. Et pour entrer dans le sujet concrètement, j'ai envie de prononcer trois mots. C'est le mot soleil, le mot eau et le mot degré. Le soleil, parce que tout le monde l'a remarqué, il y en a de plus en plus. Les périodes chaudes sont de plus en plus nombreuses, y compris l'hiver. Madame Ola vient d'en parler avec les risques de gel. Il n'y a jamais eu autant de tours anti-gel installées dans le vignoble. Ça coûte cher. L'eau, on va en parler. Depuis 2-3 ans, il n'a pratiquement pas plu dans certains départements du Languedoc-Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales. Ici, à Bordeaux, s'ouvre parfois le débat sur l'irrigation. C'est une autre donnée qui est liée à l'eau. Et pour les consommateurs, puisque finalement, sur les deux premiers points, on est quand même assez loin du verre que les consommateurs peuvent... du verre de vin que les consommateurs peuvent avoir sur leur table, c'est toute la question du degré. Les vins girondins ont gagné entre 1,5 et 2 degrés sur ces 15 dernières années, ce qui n'est pas neutre au moment de se faire plaisir. Est-ce que ces vins ont des capacités de vieillissement ou pas? Est-ce que ces vins sont digestes ou pas? Voilà, donc ce qui fait que je vois des dizaines et des dizaines de questions autour de ce sujet, d'où le plaisir qu'on a aujourd'hui à recevoir Madame Ola. Ce que je voudrais commencer par une question assez simple. J'entends régulièrement dans le vignoble des viticulteurs qui me disent « Le réchauffement climatique, c'est une bonne nouvelle, mes cépages mûrissent mieux qu'avant, notamment le Cabernet Sauvignon dans le Médoc. » Vous avez beaucoup parlé d'inquiétude. Finalement, il y a des vignerons qui ne s'inquiètent pas.
Alors, effectivement, pour l'instant, tout le monde n'est pas touché de la même manière. Nous avons pu le constater de différentes manières. Soit dans le cadre du projet que nous avons mené, nous avons rencontré en tout 500 viticulteurs dans le cadre d'un exercice qu'on dit de prospective, hein, c'est-à-dire de se projeter dans le futur, dans sept régions viticoles différentes. Et là, bien sûr, nous avons pu mesurer que dans le sud-est, hein, dans les Côtes-du-Rhône, en Languedoc-Roussillon, l'inquiétude était plus forte, hein, le désarroi plus fort, en comparaison de la région bordelaise, du Val-de-Loire, par exemple. Et donc ça fait une différence. Et puis nous avons également mené une enquête, hein, dans le cadre d'un autre projet qu'on appelle Vitirêve. Hein, c'est un projet local, soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine. Et dans ce projet, nous avons mené une enquête auprès des ODG de Nouvelle-Aquitaine. Et dans ce cadre-là, effectivement, a pu remonter que pour l'instant, notamment dans les appellations et les ODG du Médoc, c'est plutôt une bonne chose. Ça favorise une bonne maturation des raisins. Et c'est une difficulté supplémentaire, c'est de mobiliser des viticulteurs à envisager l'avenir d'ici 2050, par exemple, alors que jusqu'à présent, les conséquences, les impacts ne sont pas forcément négatifs, au contraire.
Alors donc, si on prend la vision la plus large et qu'on regarde la carte de France viticole, aujourd'hui, le point chaud, c'est le sud-est.
Alors, le point chaud, c'est le sud-est, notamment par rapport à cette question de l'eau. Hein. Il peut y avoir aussi d'autres points chauds parce que les capacités adaptatives sont moindres. Je citerai peut-être la Bourgogne qui élabore des vins à partir d'un seul cépage et pour lequel les capacités adaptatives sont peut-être moindre que le bordelais.
Le pinot noir.
Voilà, où on réalise un assemblage de cépages et donc on peut travailler l'assemblage en fonction des caractéristiques des différents cépages. Donc, bien sûr, aujourd'hui et les dernières années de sécheresse limitent notamment les rendements. Et les rendements, c'est la base économique des vignobles également. Il faut en tenir compte. Et c'est très préoccupant. Les Pyrénées-Orientales, trois années, on entame la troisième année sans précipitation majeure. Et on se demande, tout le monde se demande ce que 2024 va apporter.
Comment souffre comme un humain, peut-être, comment souffre un pied de vigne quand il fait trop chaud, quand il y a des étés caniculaires, le pied de vigne se protège, il est très sensible. Finalement, c'est une liane qui s'adapte bien historiquement.
Alors, la plante elle-même, c'est une liane, et c'est une liane qui a été domestiquée dans le bassin méditerranéen et au Proche et Moyen-Orient. Donc elle dispose de caractéristiques adaptatives. Ensuite, l'homme a su, à partir de, par des pratiques culturelles, en sélectionnant des cépages dont certains ne sont pas originaires du Moyen-Orient, mais vont être originaires des différents pays tout au long de la voie d'introduction finalement de la vigne en Europe de l'Ouest, on va dire, eh bien, il y a eu des adaptations. Cependant, on est basé sur, aujourd'hui, la richesse de la filière. Elle est basée aussi sur un type de vin, sur une qualité. Et on sait que c'est ces conditions-là qui vont devenir plus difficiles. Alors, la plante, elle va avoir tendance à moins produire, à se protéger, à limiter ses échanges avec le milieu extérieur pour perdre moins d'eau. Éventuellement, dans les feuilles, sur les raisins, il va y avoir des réactions qui vont se dérouler pour protéger les tissus contre l'échauffement. Parce que ce qui se passe, c'est que quand la température augmente, eh bien les tissus, la température des tissus, donc des baies de raisin, par exemple, peut aller au-delà de la température létale, donc qui va conduire à la mort des cellules. Donc les raisins vont développer des processus qui vont leur permettre de se protéger. C'est une partie de ces processus qui est valorisée dans la qualité du raisin, mais si ça va trop loin, eh bien ça peut conduire à des défauts de composition et une composition qui ne sera plus facilement valorisable lors de la vinification.
Il y a des vins moins frais, finalement. C'est le danger.
Alors,
la fraîcheur
c'est un des dangers, c'est-à-dire l'acidité qui est une caractéristique du raisin. Le raisin, c'est à la fois un fruit très sucré et très acide. Et cette acidité, une partie des composés qui la constituent, ils sont très sensibles à la température. Donc effectivement, on obtient maintenant souvent des raisins plus sucrés, moins acides. C'est un problème pour les vins blancs frais, par exemple, où ça modifie les équilibres. Mais ça peut être aussi un problème pour la conservation d'un certain type de vin sur le long terme.
La capacité de vieillissement, voilà. Finalement.
Donc il y a l'acidité, mais il y a aussi les autres composés liés de type polyphénol ou composés aromatiques ou précurseurs d'arômes dont l'accumulation en fonction de la température peut être variable.
Est-ce qu'il y a des terroirs plus ou moins sensibles à tout ce que vous expliquez? On parle souvent de tout ce qui est terroir argileux, que l'argile emmagasine de l'eau et le relargue l'été. C'est un point vérifié.
Alors, il va y avoir différentes caractéristiques qui peuvent être touchées. D'abord, il peut y avoir la couleur des sols, hein, avec le fait d'absorber les rayons, le rayonnement, et donc de se réchauffer plus ou moins vite, hein, et de le restituer. Et puis, effectivement, la composition des sols, leur structure, vont jouer sur leur capacité de rétention en eau. Leur profondeur également est très importante pour améliorer cette capacité de rétention. Donc, la capacité de répondre à l'augmentation de température peut dépendre de la disponibilité en eau dans le sol. Quand il y a plus d'eau, eh bien, ça va être plus facile de résister aux hautes températures que lorsqu'il y a moins d'eau disponible.
Est-ce que les sols plus drainants comme les graves sont davantage en danger ?
Ils peuvent être en danger si la profondeur d'enracinement n'est pas suffisante. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important, c'est de choisir éventuellement des sols, hein, ou des zones dans les vignobles en fonction des cépages qui vont être suffisamment profonds. Mais aussi, lorsque on va replanter un vignoble, c'est de mettre en œuvre des pratiques culturales qui font favoriser le développement du système racinaire pour qu'il puisse, tout au long de la vigne, aller puiser de l'eau en profondeur.
Ces solutions et ce regard vers l'avenir, on va en parler dans une deuxième partie de cet entretien. Je voudrais rester sur notre carte de France viticole, voire notre map monde, si je peux me permettre. Vous avez réalisé, dans le cadre donc de ce projet, une étude quasi mondiale, puisqu'il y a eu 18 pays viticoles qui ont été interrogés. Et évidemment, vous avez beaucoup travaillé sur les régions françaises. Je voulais m'arrêter sur un point, par exemple, sur le questionnaire que vous avez envoyé aux viticulteurs en France, qui montre que en Provence et en Languedoc-Roussillon, les viticulteurs, eux, y pointent nettement une baisse de rendement.
Déjà, je tiens à préciser que ce travail-là a été réalisé par un jeune chercheur, hein, qui s'appelle Étienne Nitling, qui est enseignant-chercheur à l'ESA d'Angers et qui a conduit vraiment ce travail important et qui continue à s'intéresser à ce que peuvent apporter les exemples à travers le monde. Donc oui, effectivement, dans les zones sud de la France, hein, la Provence, Languedoc-Roussillon, le facteur premier de limitation, c'est la disponibilité en eau. Et le rendement est très sensible à la disponibilité en eau. Il est l'année en cours, hein, mais les sécheresses d'une année vont se répercuter sur l'année suivante et peuvent aussi limiter le nombre d'inflorescences puis de grappes qui seront visibles ou exploitables l'année suivante.
Avec, j'anticipe, les viticulteurs interrogés indiquent que la teneur en sucre des raisins est le paramètre qui est le plus affecté par le changement climatique. Ça reboucle avec ce que disait César. Toujours sur cette étude, 18 pays viticoles interrogés, je le disais, on peut les citer: Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Canada, Chili, Espagne, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Italie, Japon, Nouvelle-Zélande, Portugal, Suisse. Quand on est chercheur, comme vous, spécialiste de la vigne, qu'on lit ces études, qu'on lit ces retours de viticulteurs du monde entier, c'est quoi le sentiment et l'impression générale qu'on a dans le contexte ?
C'est d'une part que c'est un phénomène mondial, hein, le réchauffement climatique, il ne touche pas que la France, et il ne touche pas que la viticulture en France et dans le monde. Donc vraiment, c'est un phénomène mondial. Et les constats peuvent être en partie partagés. Donc notamment dans les viticultures traditionnelles, on va dire, le fait que les degrés augmentent et que les rendements peuvent baisser, ça, c'est quelque chose qu'on va rencontrer partout. Après, il y a des spécificités en fonction du type de vin produit et puis des conditions de culture. Dans les pays où l'irrigation est généralisée, c'est peut-être l'accès à l'eau qui va poser un problème, mais la sensibilité à la sécheresse ne va pas être quelque chose qui va remonter à travers une enquête. Donc ça, c'est vraiment très important et ça se voit à la fois à l'échelle mondiale et à l'échelle nationale. Il y a des grandes tendances qui sont les mêmes partout et après, des spécificités qui vont vraiment dépendre des situations locales, à la fois climatiques, mais aussi de la manière dont on cultive la vigne et du type de vin qui est produit.
Il y a deux points qui me semblent importants, puisque Mathieu l'évoquait tout à l'heure. Concrètement, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme remède, entre guillemets, pour les viticulteurs? Qu'est-ce qu'il en est de la hauteur de palissage? Pendant des années, j'ai entendu dire qu'il fallait faire des vignes de plus en plus hautes pour que la photosynthèse se fasse correctement. Et aujourd'hui, on est en train de se dire que finalement, il faut baisser cette hauteur de palissage. Et qu'est-ce qu'il en est de la densité de plantation? Est-ce qu'il y a des densités optimales, nombre de pieds hectares? Sur ces deux leviers, est-ce qu'il y a des conseils très pratiques à donner aux viticulteurs aujourd'hui?
Alors oui, effectivement, pendant une trentaine d'années, on a dit pour améliorer notamment la teneur en sucre, hein, il faut augmenter la hauteur de palissage. Je me souviens dans les années 90, hein, Denis Dubourdieu disant que le facteur limitant de la production du vin à Bordeaux était la teneur en sucre. Hein. Donc on a bien changé de contexte aujourd'hui.
À l'époque, on chaptalisait et maintenant, on ne chaptalise plus.
Donc voilà. Et donc ça, c'est important de le prendre en compte. Donc les pratiques hauteur de feuillage, effectivement, ça peut être un moyen de réduire un petit peu la teneur en sucre des raisins. Alors là, il y a encore à expérimenter en fonction des différentes situations pour régler le rapport, on dit, entre la hauteur du feuillage et la quantité de fruits afin de mieux contrôler la teneur en sucre. Cependant, si on veut juste jouer sur la teneur en sucre, on peut avoir besoin de réduire de manière assez importante la hauteur de feuillage et ça ne sera pas forcément très simple. En ce qui concerne les densités, alors il n'est pas facile de donner un chiffre parce que ça dépend beaucoup de la disponibilité en eau dans les différentes régions et dans les différents types de sols. On sait cependant que dans les vignobles méditerranéens, des densités plus faibles permettent d'économiser de l'eau, puisque en gros vous avez moins de plantes pour la même surface, et donc moins de feuilles, et ce sont ces feuilles qui évaporent l'eau. Donc les besoins en eau seront moindres à plus faible densité de plantation.
Vous l'avez évoqué tout à l'heure, les hivers sont de plus en plus chauds, donc la vigne débourre plus rapidement, avec deux conséquences que j'aimerais qu'on analyse ensemble. C'est la technique de taille, on voit sur le terrain qu'on taille donc de plus en plus tard, et deuxièmement, les risques de gel. On a vu en 2017, on a vu en 2021, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, cette année 2024, il y a des risques de gel. Sur ces deux critères, qu'est-ce que vous pourriez nous dire, la taille et le gel?
Alors, effectivement, la manière la date de taille est un élément important déjà pour limiter les risques de gel. C'est-à-dire, lorsqu'on taille tard, la vigne va commencer à démarrer plus tard. Hein. Et c'est une technique qui est assez répandue dans le vignoble. Les viticulteurs, traditionnellement, ils savent ces choses-là. Ils essaient d'adapter notamment leur date de taille en fonction des zones plus ou moins gélives qui sont dans leur vignoble. Cependant, c'est aussi une remontée du terrain de dire que ça ne peut pas être généralisé sur l'ensemble d'une propriété, par exemple, parce que l'organisation du travail fait qu'on ne peut pas tout tailler au dernier moment. Donc il y a quand même ce point-là. On sait aussi que si on par contre, techniquement, si on retarde encore plus la date de taille, même après le débourrement, hein, 2-3 feuilles, eh bien des expérimentations montrent qu'on peut conserver le retard, hein, jusqu'aux vendanges et retarder la date de vendange. Donc ce sont des expérimentations qui ont été menées en Australie, qui mériteraient d'être répétées sous nos latitudes pour voir si effectivement, en taillant très tard, on peut retarder la date des vendanges sans agir sur le rendement, parce qu'il y a toujours un risque aussi qu'à terme, on épuise la souche. Alors ensuite, il y a la question des risques de gel. Effectivement, depuis 5-6 ans quand même, on voit se répéter des printemps avec des gels, hein, La vigne étant plus précoce, ça la met dans une situation plus sensible au moment où arrivent des refroidissements qui sont fréquents hein, au mois d'avril, voire même début mai. Le changement climatique ne conduira pas forcément à une réduction de ces événements de refroidissement au printemps, parce que c'est indépendant. Donc si la vigne est déjà en végétation, eh bien il peut y avoir des risques de gel. Les simulations que font les modélisateurs aujourd'hui sont entachées d'incertitudes, parce que ça dépend beaucoup de la manière de prévoir ou simuler la date de débourrement. Et donc, le fait que ces risques de gel de printemps puissent perdurer dans le temps, hein, d'ici 2050, il y a encore beaucoup d'incertitudes à ce sujet-là.
Alors, on a commencé à prononcer le mot, et je voudrais qu'on y revienne. On a prononcé à plusieurs reprises le mot terroir. Terroir, donc, une plante ou des plantes, un sol, un climat et puis une activité humaine qui s'inscrit dans l'histoire. Et j'ai lu dans cet ouvrage vraiment très détaillé, très, très riche, cette phrase « Certains terroirs verront disparaître la vigne, tandis que d'autres apprendront à la maîtriser. » Alors, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt le chapitre sur la Bretagne qui m'est cher, avec la projection des cépages qui s'y développeront ou qui pourraient s'y développer, y compris le Pinot Noir. Et j'ai lu aussi cette phrase « Il semble en revanche plus délicat de cibler les régions pour lesquelles la viticulture ne sera plus viable dans les prochaines décennies. » Finalement, vous continuez à manier un paradoxe.
D'une part parce que la vigne est une plante, je l'ai dit tout à l'heure, hein, qui est d'origine méditerranéenne, donc qui est habituée à des conditions plus chaudes et plus sèches de manière générale. Donc elle peut s'adapter dans des limites importantes. Cependant, il faut que l'activité reste économiquement viable. Donc si on se limite à la France, il est quasiment impossible de dire que la vigne ne sera plus cultivable dans n'importe quelle région. Il va peut-être falloir identifier des terroirs plus propices, hein, avec des sols plus profonds, ou éventuellement mobiliser certains moyens d'adaptation qui lui permettront de continuer à être cultivé.
Ou planter davantage en altitude, vous le mentionnez dans votre ouvrage.
Vis-à-vis des températures, c'est un facteur. Si on a possibilité, effectivement, et avec des sols, avec une réserve en eau plus importante, ça va être vraiment les facteurs importants dans ces régions qui peuvent être limites en termes climatiques. Dans les autres régions, notamment en France, on peut penser que les pratiques vont permettre une adaptation qui peut être plus ou moins importante. Et puis, il peut y avoir apparition de nouvelles régions viticoles dont le potentiel qualitatif et économique devra s'évaluer, se construire au fil des années. Alors, il y a peut-être beaucoup plus de dangers hein, dans le sud de l'Espagne, le sud de l'Italie, où là, on est déjà très en limite hein, des conditions favorables à la viticulture. Là aussi, en sélectionnant des zones climatiques et des terroirs plus favorables, pourront rester un certain nombre de niches de cultures de la vie.
Le désert gagne le sud de l'Espagne, finalement. Ça devient des zones désertiques.
Ça devient des zones désertiques. Alors, la vigne n'a pas énormément de besoin d'eau. Hein. Tout dépend du rendement que l'on souhaite obtenir. Hein. Si on veut des rendements élevés, eh bien, il faut un peu d'eau. Mais il y a une étude qui a été réalisée sur l'impact eau de la filière vigne et vin en Espagne hein, et qui montre où l'irrigation s'est beaucoup développée hein, au cours des dernières décennies hein, et qui montre que finalement, il y a eu beaucoup d'arrachage en même temps. Mais l'impact eau a beaucoup augmenté pour finalement une augmentation de production qui n'est pas en proportion. Donc il faut se méfier des solutions telles que la généralisation de l'irrigation, parce que c'est pas forcément, ça ne conduit pas forcément à une bonne optimisation de cette ressource.
Et en même temps, Mathieu, tu l'évoquais, donc on trouve maintenant du vin en Bretagne, mais également dans le sud de l'Angleterre, des vins blancs et des effervescents. Je crois même qu'il y a une appellation en Belgique. On produit du vin en Suède, bientôt au Groenland.
Ouais, alors je ne sais pas pour le Groenland. Alors après, il y a des questions de longueur du jour et d'autres facteurs climatiques ou géographiques qui pourraient affecter la viticulture. Mais c'est vrai qu'on voit se développer de nouveaux vignobles, hein, ou des vignobles historiques qui avaient disparu, notamment après la crise phylloxérique, et on voit un renouveau. Alors il y a des statistiques de 1827 hein, qui montrent qu'en France, il y avait seulement 3 départements qui n'étaient pas viticoles, hein, dans un climat qui était pourtant plus frais. Hein, Donc, il y avait des vignes en Bretagne et aujourd'hui, il y a un renouveau de cette culture avec, pour un certain... Alors, il y a eu un mouvement associatif important hein, qui continue et puis des entreprises, il y a des petits vignobles dans la vallée de la Rance, par exemple, qui commencent à bien tirer leur épingle du jeu. Et puis, le vignoble au sud de l'Angleterre, les surfaces augmentent beaucoup hein, et des expérimentations... des sortes de pionniers dans des pays plus au nord de l'Europe.
Revenons dans le sud-ouest et en Gironde et à Bordeaux. Parlons d'abord du projet VitAdapt, ce projet lancé en 2009, dont les premières observations ont été comptabilisées, si j'ose dire, en 2012. VitAdapt, c'était aussi ce qu'on appelait la parcelle 52, 52 cépages, 31 cépages rouges, 21 cépages de blanc, de toutes origines, Italie, Grèce, Portugal, Bulgarie et France aussi. A posteriori, puisqu'on peut dire a posteriori, on est en 2024, vous avez 12 ans d'observation et de conclusion, qu'est-ce qu'on en retient ?
Alors oui, VitAdapt, c'est ce dispositif où nous avons cherché à anticiper le comportement d'un grand panel de cépages. Alors ce petit vignoble, il est implanté à Villenave-d'Ornon, hein, sur le site INRAE de Villenave-d'Ornon et le site de l'Institut des sciences de la vigne et du vin, hein, un acteur majeur de la recherche sur la vigne et le vin dans la région Nouvelle-Aquitaine et en France, donc c'est important de le citer. Et donc ce dispositif, il a été pensé dès 2009 en collaboration avec le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux pour dire, on va tester le potentiel d'un grand nombre de cépages à être cultivés dans les conditions du climat bordelais, et à voir si certains de ces cépages, dans le contexte du changement climatique, pourraient être introduits dans l'encépagement bordelais, et avec l'objectif de garder la typicité bordelaise. Les cépages qui ont été sélectionnés en 2009 étaient des cépages qui, dans leur région d'origine, permettaient d'élaborer des grands vins, donc des vins de grande qualité. Et ça a vraiment été un facteur de choix déterminé. Bien sûr, des cépages de vignobles plus au sud hein, et plus à l'est. Donc les relevés ont commencé en 2012 et depuis 2012, hein, ce vignoble est passé à la loupe hein, puisque chaque année, des relevés très précis sur les stades de développement, le débourrement, la floraison, la véraison, c'est-à-dire que le moment où les raisins commencent à mûrir sont réalisés hein, sur toutes ces vignes-là. La composition des raisins est analysée. Plus récemment, on étudie également la réponse des cépages vis-à-vis de la sécheresse, mais aussi vis-à-vis d'autres problèmes, hein, comme les maladies du bois. Donc c'est vraiment, ces 52 cépages, ils sont scrutés depuis plus d'une dizaine d'années. Et donc, des observations ont pu être réalisées sur le potentiel d'un certain nombre d'entre eux, à commencer à mûrir plus tôt ou plus tard, à mûrir plus ou moins vite également, parce que ça, c'est une autre caractéristique. Et un des résultats, peut-être inattendu au départ, ça a été de profiter, en gros, du changement de réglementation avec la création par l'INAO de la catégorie VIFA, variété d'intérêt à fin d'adaptation, pour permettre aux viticulteurs, alors du vignoble girondin d'abord, d'expérimenter une petite liste, une short list de quelques-uns de ces cépages qui ont été sélectionnés d'après les résultats, les premiers résultats de VitaDapt. Et donc c'est à la fois un projet de recherche et un projet de recherche qui donne des résultats qui sont utilisables par la filière.
Et est-ce que vous inciteriez les viticulteurs qui aujourd'hui se posent des questions à tester ces cépages, je crois, qui viennent du Portugal, qui viennent d'Europe de l'Est, dans des proportions très faibles, effectivement, puisque le monde des appellations bouge, mais bouge doucement?
Alors oui, nous incitons à expérimenter, hein, parce que d'abord... les résultats que nous avons obtenus, c'est dans un seul site. Hein. Donc, il faut vraiment qu'ils puissent être expérimentés dans différentes... compte tenu de la variabilité des situations dans le vignoble bordelais. Il faut qu'ils puissent être... ensuite, voir comment le vin produit peut être valorisé en assemblage ou de manière indépendante. Hein. Voir si ça peut répondre à un besoin qui est là ou qui pourrait apparaître au fil des années.
Et je réagis sur un mot que vous venez de prononcer, qu'on n'a pas abordé, Mathieu, c'est le mot maladie. Est-ce que le réchauffement climatique peut amener, au-delà des classiques mildiou ou oïdium que nous avons sous nos latitudes, est-ce qu'il y a un danger en termes de maladies nouvelles ?
Ben, y a un danger parce que y a un risque et il y a une grande incertitude. Donc c'est vrai qu'on a du mal à savoir exactement quel sera le futur de l'état sanitaire de la vigne. Donc il y a possibilité d'apparition de nouvelles maladies. Alors en lien avec le changement climatique ou pas forcément, hein. On a toujours des inquiétudes vis-à-vis de la maladie de Pierce, hein, qui pour l'instant est a priori absente du vignoble français, mais qui pourrait le coloniser et mettre en danger fortement la vigne. Il peut y avoir aussi un certain nombre d'insectes, hein, qui se développent plus facilement en raison des climats plus chauds et qui pourraient... affecter les vignes plus qu'il ne l'affecte aujourd'hui. Malheureusement, c'est vrai que l'incertitude concernant mildiou et oïdium, qui sont quand même les deux maladies les plus importantes, les chercheurs, hein, n'osent pas faire des prévisions pour le futur en disant oh ben non, il n'y aura plus d'oïdium ou il y en aura plus, parce que les éléments sur lesquels on travaille jusqu'à présent n'ont pas permis de révéler des tendances. Bon, s'il pleut plus, hein, si on a, notamment dans l'Ouest, ce qu'on a observé ces quelques années, eh bien forcément les risques de mildiou seront plus importants. Et là, si on revient sur la question des cépages, hein, il sera peut-être intéressant au moins d'expérimenter des variétés résistantes aux maladies pour vraiment réduire l'application de produits phytosanitaires. Parce que bien sûr, il faut réfléchir à l'adaptation au changement climatique, mais il ne faut pas le réfléchir indépendamment de la réduction de l'application de pesticides.
En fait, il pleut plus, mais pas au bon moment. Hein. C'est ça, en fait. Parce que on est en train de parler de manque de pluie et finalement, il pleut plus.
Alors, ça dépend des zones. Hein. Ça dépend des zones.
Sous nos latitudes.
Voilà. Et puis, ça peut être des cycles, hein, des cycles qui sont indépendamment du changement climatique. Donc, il y a... Sur le temps long... les climatologues et notamment les experts du GIEC, hein, y a une probabilité forte que les précipitations baissent, hein, notamment après 2050. Mais ça reste de la simulation. Hein. La France étant un peu une zone limitrophe, hein, entre plusieurs régimes climatiques, Il peut y avoir assèchement ou réduction des précipitations dans une partie et augmentation dans une autre.
On appréciera le propos, Mathieu, avec toute la pluie qui est tombée cet hiver.
Tout à fait. J'ai retenu ce mot « expérimenter ». Et je me dis, parce qu'il y a beaucoup de professionnels et de viticulteurs qui nous écoutent, je suis viticulteur, j'ai les pieds dans les graves ou dans l'argile. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Parce que tout le monde ne va pas aller faire du vin blanc en Belgique, ça c'est sûr et certain. Qu'est-ce qu'il faut engager vite et modestement comme démarche ou comme action à un niveau individuel selon vous? Au moins pour prendre un petit peu d'avance et anticiper.
Alors, il va y avoir deux choses. Hein. La personne est dans une situation où il veut replanter, hein, et se dire, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour préparer mon vignoble à être adapté d'ici au cours des 20 ou 30 prochaines années. Et puis, il y a le vignoble qui est déjà implanté. Donc, dans le vignoble qui est déjà implanté, on a évoqué la question de la taille, peut-être de jouer un peu sur la hauteur de feuillage. Je pense qu'il y a la question des sols, hein, de mettre en œuvre des pratiques culturales qui favorisent l'infiltration de l'eau. Hein. Jouer entre le travail du sol et l'enherbement. Quel type d'enherbement, quel type d'herbe, ça va être des éléments importants. Favoriser également tout ce qui va être la vie dans les sols, la biodiversité, hein, parce qu'on sait que ça peut être aussi des facteurs de résilience vis-à-vis du changement climatique. Laisser un peu tomber les pratiques des feuillages, hein, trop sévères, pour conserver de l'ombre sur les raisins, parce que la température des raisins peut vite augmenter. Donc ça, il faut observer, hein, on parle de pratiques de gestion adaptative d'une année. Faut retourner au métier d'observateur et en fonction d'un certain nombre de choses qu'on voit dans la vigne, adapter la conduite. Et puis ensuite, c'est travailler main dans la main avec les œnologues, hein, qui ont un rôle extrêmement important de valorisation de la matière première, hein, et qui, eux, aussi, c'est leur métier depuis toujours, hein, d'adapter les pratiques, hein, et la conduite de la vinification à la matière première. Et bien là, ils peuvent aussi mettre en valeur ce raisin obtenu. Et puis, si on replante un vignoble, eh ben, je pense que ça vaut le coup de se poser un certain nombre de questions, notamment sur la préparation, hein, la préparation des sols, hein, favoriser, mettre en œuvre une préparation, un mode de plantation qui permettra à la vigne de s'implanter en profondeur, hein, et peut-être d'augmenter la réserve en eau disponible. Si on veut tester, bien sûr, dans le cadre des cahiers des charges, des appellations, il y a toujours ce cadre-là. On peut plus ou moins expérimenter des choses. Aujourd'hui, on peut rentrer aussi dans cette dynamique d'expérimentation qui est proposée par les instituts techniques et qui est même mis en avant par l'INAO. L'INAO prend compte aussi de ces conditions climatiques changeantes, se pose des questions et propose des cadres expérimentaux pour pouvoir tester un certain nombre de pratiques dans le cadre de l'appellation. Notamment on va parler de filets d'ombrage, par exemple, d'accord, sur lequel il peut y avoir éventuellement des expérimentations.
Et deux mots sur le porte-greffe, puisque c'est votre spécialité. Le porte-greffe, c'est quoi et en quoi c'est important de choisir un porte-greffe adapté?
Alors, bien sûr, le porte-greffe, c'est quelque chose. Alors, c'est la partie racinaire de la vigne. Hein. Alors, depuis la fin du 19e siècle, en raison du phylloxéra, pour sauver le vignoble qui est planté avec l'espèce Vitis riparia, sensible au phylloxéra et qui nous donne les raisins de qualité qu'on connaît, eh bien, il a fallu remplacer ce système racinaire par des variétés en provenance d'Amérique du Nord, notamment, qui résistent au phylloxéra. Donc le porte-greffe, c'est effectivement un facteur majeur d'adaptation au changement climatique, notamment vis-à-vis de la sécheresse. Dans la gamme des porte-greffes qui existent et qu'on peut planter en France dans n'importe quelle appellation, bien sûr, ça va dépendre du type de sol, mais il n'y a pas, en général, dans les cahiers des charges, il n'y a pas de mention spécifique des porte-greffes. Eh bien, dans cette gamme-là, il y a des porte-greffes qui sont plus résistants à la sécheresse et qui pourraient être expérimentés et mobilisés dans les vignobles qui, jusqu'à présent, ne faisaient pas appel à ces porte-greffes.
Ou plus productifs ou moins productifs, ce que vous disiez tout à l'heure, pour les rendements.
Ils peuvent avoir un impact aussi sur le rendement et la vigueur de la vigne. Après, il y a les régions dans lesquelles la situation était déjà plus sèche et où ces porte-greffes étaient déjà largement utilisés, ceux qui sont qui peuvent conférer la meilleure tolérance à la sécheresse. Et les travaux de recherche que nous menons à Bordeaux, notamment avec un certain nombre de collègues et Elisa Marguerite qui a planté la parcelle jumelle de VitAdapt qui s'appelle GreffAdapt, on pourra en reparler, c'est d'identifier des porte-greffes existants dans d'autres pays qui pourraient permettre une meilleure adaptation à la sécheresse dans des régions encore plus sèches.
Et concernant les variétés, c'est un sujet qu'on a souvent abordé à ce micro, est-ce que le Merlot est un élément faible de l'évolution de la viticulture? Est-ce que le Merlot est en danger, vu qu'effectivement, vous l'avez énoncé tout à l'heure, il accumule les sucres et il donne des vins à des degrés plus élevés? Est-ce que vous conseilleriez aujourd'hui en Gironde de planter du Merlot ou pas?
Je ne le conseillerais pas forcément parce que théoriquement, cette capacité forte qu'il a à accumuler des sucres pourrait présenter des limites. C'est-à-dire que quand on arrive à régulièrement des vins à 15 degrés, il y a toujours le bénéfice de l'assemblage à Bordeaux. Le potentiel à élaborer des grands vins peut être questionné. Il faut rester modeste par rapport à notre connaissance des cépages parce que il y a certainement cette capacité d'acclimatation à des conditions inconnues jusqu'à présent. Malgré cette capacité à accumuler beaucoup de sucre, éventuellement des observations dans les conditions réelles qui montreraient qu'il est particulièrement résilient. Donc 2022, par exemple, il y a beaucoup de remontées du terrain qui ont dit que les merlots étaient exceptionnels. Alors, il y a la capacité des raisins à élaborer des grands vins, mais ça découle. Ensuite, est-ce que ces vins seront appréciés et acheté par les consommateurs, c'est une autre dimension qu'il faut prendre en compte. Les vins, la question du degré d'alcool dans les vins pose question vis-à-vis de l'acceptation des consommateurs vis-à-vis de ce type de produit.
Sur le côté digeste ou pas finalement du vin?
Alors digeste ou apprécier, je pense qu'il n'y a pas eu d'études concernant la digestibilité et l'impact physiologique en dehors de l'alcool.
Que des vins qui fatiguent ou pas.
Voilà,
quoi, en fait.
Des vins, juste l'appréciation, le plaisir qu'on a à les déguster. Donc, par exemple, dans le cadre du projet La Cave, il y a eu une étude approfondie qui a été réalisée sur ce qu'on appelle le consentement à payer des consommateurs pour différents types de vins. Et ces vins, lors de cette étude, ces vins étaient caractérisés par un degré alcoolique variable. Et ce qui a été montré, c'était que à la première dégustation, le panel de consommateurs qui était relativement important, puisque en tout il y a eu 180 personnes qui ont participé à l'étude. À la première dégustation, des vins avec un profil de type changement climatique, avec une teneur en alcool importante, mais aussi des vins concentrés, marqués par des arômes de fruits confiturés, ces vins étaient appréciés. était bien apprécié par les consommateurs.
Ce qui a fait le succès des vins du Nouveau Monde il y a une quinzaine d'années, finalement.
Oui, par exemple. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que si on proposait aux consommateurs de déguster ce vin déjà en amont de l'exercice auquel ils étaient invités, eh bien, on a vu que leur consentement à payer, donc à acheter ce vin de manière répétée, baissait. Et ils appréciaient moins ces vins plus structurés, plus chauds, plus caractéristiques de ce qu'on va appeler les vins du changement climatique. Donc, il faut porter attention vraiment de manière importante, pas seulement à la capacité des cépages et des producteurs à élaborer des vins, mais aussi à la manière dont ces vins seront appréciés et achetés par les consommateurs.
Est-ce que vous avez travaillé sur la capacité de vieillissement ? On en parlait tout à l'heure. Les vins ont moins d'acidité, l'acidité soutient le vieillissement. Est-ce qu'il y a un danger ? Est-ce qu'on goûtera en 2050 de très beaux 2025 ?
Alors, ces travaux, bien sûr, sont réalisés par différents chercheurs. L'étude sur l'économie et l'aptitude à... Le consentement à payer des consommateurs avait été mené par mon collègue Éric Giroero. Sur la partie vieillissement des vins, des travaux sont menés à l'Institut des sciences de la vigne et du vin par le laboratoire d'œnologie. Alors, il n'y a pas... Pour l'instant, il y a encore beaucoup d'incertitudes. On repère, sur certains vins, on repère des composés qui vont être spécifiques des vins produits en 2003, par exemple. Ce qu'il faut, c'est que les travaux soient répétés et puissent être confirmés sur d'autres millésimes très chauds. Et ensuite, regarder sur le long terme. Donc, comme c'est des travaux à long terme, il y a aujourd'hui pas encore forcément de résultats très marquants à donner. Il y a des constats. Finalement, on a dit que les vins de 2003 ne se conserveraient pas très longtemps. À la dégustation, un certain nombre d'entre eux... ne vont peut-être pas avoir encore une carrière très importante, mais sont encore agréables à boire aujourd'hui.
Je vois que le temps file. Je retiens effectivement, et vous y consacrez, et nous venons d'en parler, un long chapitre sur ce risque de lassitude, pour reprendre l'expression, pour les vins, du changement climatique, du point de vue du consommateur. Et dans votre conclusion qui est très étoffée, justement, vous indiquez qu'il y a un gros travail au niveau de la vinification qui reste à faire. Vous dites « des recherches systématiques et appliquées aux nouvelles variétés restent nécessaires » et en creux, on comprend que là, il y a encore un angle mort.
Un angle mort, c'est-à-dire que ce qu'il y a, c'est que les œnologues travaillent beaucoup et ils travaillent notamment sur la manière, d'abord sur les caractéristiques des raisins et des vins qui sont emblématiques de la qualité. Donc ça, c'est vraiment important de mener ces recherches-là parce que ça donne des marqueurs de ce qu'on recherche. C'est vrai que cette nouvelle matière première qui est produite et qui sera produite dans les vignobles, il faut que les œnologues... trouve les meilleures façons de le transformer pour élaborer des produits qui plaisent aux consommateurs. Donc, il y a aussi les habitudes et les souhaits des consommateurs qui sont à prendre en compte dans ce travail des œnologues et des recherches en œnologie. Et bien sûr, par-dessus, il faut réfléchir à l'adaptation. Et donc, en fonction des pratiques qu'on va privilégier pour l'adaptation, si on change de cépage, il faudra que les œnologues et qu'il y ait des recherches qui soient menées pour savoir comment vinifier au mieux ces cépages. Et c'est vrai que c'est peut-être là où il y a du travail à réaliser pour... tirer parti au mieux des différents leviers d'adaptation qui seront mis en œuvre à la vigne, comment en tirer parti à la cave. Alors, on parle beaucoup de ça également pour... on a parlé des maladies, hein, et de ces variétés résistantes aux maladies, hein, qui sont mises au point. Pour l'instant, c'est un peu indépendant du changement climatique, hein, mais le travail se poursuit dans les laboratoires et dans les vignobles pour combiner les deux propriétés. Et c'est vrai que là, il y a un travail à réaliser en œnologie, à la fois de recherche et dans la pratique, pour pouvoir tirer parti au mieux de ces nouveaux cépages.
Il y a deux ou trois points qui parlent au consommateur, je crois. Je ne sais pas s'il y a un rapport avec le réchauffement climatique ou la manière dont les œnologues pourraient travailler ces raisins nouveaux. Est-ce qu'il y a des éléments à retenir en termes de couleur, de fruité ou de tanin du vin? Sur ces trois éléments, est-ce qu'il y a des choses à retenir? Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les vins moins tanniques ont plutôt la faveur des consommateurs. Est-ce qu'il y a, il y a des passerelles?
Alors, ce que les œnologues essaient de retrouver, c'est en termes de composés aromatiques, soit de précurseurs. La question des arômes est extrêmement importante, hein, je pense. Et ça, c'est vraiment peut-être l'accent qu'il faut mettre, hein, parce que c'est peut-être ce qui est éventuellement le plus en danger dans le contexte du changement climatique, et également qui contribue, alors, bien sûr, majoritairement à l'atypicité. Et donc, il y a vraiment un travail et à soutenir concernant ces arômes. D'abord, identifier les molécules ou les précurseurs qui conduisent aux différents types d'arômes. Et dans un panel de variétés, hein, le plus large possible. Et puis également, voir comment l'accumulation de ces composés varie en fonction des conditions climatiques. C'est peut-être ça sur lequel il y a le plus de travail à faire. Hein. C'est finalement travailler encore plus conjointement entre les physiologistes de la plante, les généticiens et les œnologues, pour arriver à bien comprendre ce qui fait la qualité du raisin.
Merci Nathalie Ola. Merci César. Merci Nathalie Ola pour cette carte et ce territoire des vins, si j'ose dire, cette nouvelle cartographie. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Merci à vous tous et à vous toutes qui écoutez nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, avis ou suggestions. Retrouvez tous nos épisodes sur sudouest.fr et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous sur Sudouest à Deezer, Spotify, iTunes ou Google Podcast. D'ici là, portez-vous bien et rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, soutenez-le avec des étoiles, des posts sur les réseaux ou parlez-en autour de vous.